Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Bonjour à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop affamés. Remarquez, si vous êtes affamés, ça tombe bien parce qu'on va vous nourrir, on va vous nourrir avec de belles choses. Alors, je ne dis pas que je fais la livraison à la maison, mais ce dont on va vous parler ce matin, rien qu'à travers les mots, vous allez le sentir, vous allez le humer, ça va vous donner envie de partir au marché, parce que ce qu'on a ce matin, on ne le trouve pas soi-même. On pourrait, hein, en étant vraiment très doué. Allez, on vous en dit plus tout de suite.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Oui, mes amis, l'automne, dans notre inconscient collectif, c'est la saison du champignon. Et alors des champignons, j'ai envie de dire. Hein. On n'a pas eu beaucoup de cèpes cette année, hein. Ça a été assez compliqué. Là, à la naissance, pendant le mois d'octobre, je dois dire qu'on a un peu ramé. Mais il y a un champignon qui fait son apparition à l'automne, c'est la truffe blanche. Vous n'avez jamais goûté ? Ah, alors là, restez avec nous, parce que là, ça vaut le coup d'en causer. La truffe blanche, elle est d'essence italienne, je dirais même piémontaise, hein, c'est un peu le spot, là où on trouve de la truffe blanche. Et cette truffe blanche, ben, elle préfigure l'automne. Et alors que la truffe noire, notre truffe noire de France, il n'y en a pas qu'en France, on en parlera hein, au moment de la saison, c'est plutôt l'hiver. Voilà, la truffe blanche du Piémont, c'est l'automne, et la truffe noire de chez nous ou d'ailleurs, c'est plutôt l'hiver. L'une succède à l'autre. Et pour parler de la truffe blanche ce matin, eh bien, j'ai fait venir deux spécialistes qui sont autour de moi. Un cuisinier, un qui la met en œuvre, c'est Massimo Mori qui est avec nous, restaurateur à Paris. Bonjour Massimo.
Ciao à tutti.
Comment ça va chez vous, le Brixard pris l'activité au Mori?
Ça va très bien, on a bien repris et on espère que ça continue, voilà.
Bon, et évidemment, mon cher Massimo, chaque automne se pose la question du prix de la truffe blanche, de combien j'en mets, est-ce que j'en mets pas, hein.
Et à quel prix
On va en parler tout de suite avec Marine Gallois. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour Massimo.
Alors, ciao. Marine Gallois, elle, justement, c'est la négociante, hein, c'est la distributrice, ouais. Hein, c'est celle qui fait mal au chef, hein.
Exactement.
Parce que... j'ai entendu, chère Marine Gallois, puisque vous vendez de la truffe, alors pas que de la blanche, mais là en ce moment c'est la blanche.
En ce moment la blanche, oui.
Autrement dit, vous êtes l'intermédiaire. Exactement. Entre les producteurs ou le consortium,
les ramasseurs,
oui. Et les chefs le plus souvent. Hein. C'est rarement vendu au grand public ici en France.
Oui, rarement, surtout la truffe blanche, on est vraiment sur un plus public, plutôt chef. Voilà.
Oui, parce que non seulement il faut savoir la mettre en œuvre, hein, et ça on va en parler avec Massimo, savoir au fond comment la magnifier. D'ailleurs, son nom c'est Magnatum.
Pico
par-ci, pico par-là.
Andiamo qui, andiamo là.
Marine, on va tout de suite taper dans le vif du sujet. Combien coûte la truffe blanche cette année au kilo?
Environ.
Non, mais ça va faire frémir ceux qui nous écoutent,
oui, voilà.
Mais écoutez bien, hein, vous n'allez pas le
croire. Elle va parler de gros.
Oui,
en plus de gros. Ouais. Cette année, c'est vraiment très très compliqué. On est de l'ordre de 4500, 5500 euros au kilo.
Le kilo, voilà. Vous entendez bien, mes amis.
Sachant que l'année dernière, quand personne ne pouvait le consommer, elle était à 1800.
Ouais. C'est vrai, aux alentours de 2000.
Oui.
Donc elle est à plus du double aujourd'hui.
Oui.
On va dire globalement, si l'on était, si on la vend à des particuliers, c'est-à-dire au détail, ça peut atteindre 6000. Hein.
Facilement.
Moi, je l'ai vu à la maison de la truffe à 12000.
Ah oui, mais c'est la maison de la truffe.
Alors, après, il faut voir le calibre, hein, parce qu'il y a plein de choses qui changent le prix, donc la provenance exacte, les cinq essences qui sont différentes, et bien sûr, qui la vend. Donc, c'est clair que si vous avez la maison de la truffe, ils doivent avoir leur marge. Alors, est-ce que la marge, elle est bien, elle est pas bien? Quel calibre ils vendent? Parce que entre une truffe de 20, 50 grammes, il y a un prix, vous le savez bien, entre 50 et 80, un autre, 100 et plus.
La forme
et
aussi,
après, la forme,
si elle est bien ronde.
Si elle est de peupliers, si elle est de saules, si elle est de chêne, si elle est de tilleul, il faut voir, voilà, tout ça change le prix, et puis l'exclusivité, c'est-à-dire quand là, le 11 novembre il va y avoir le marché sur Alba, forcément il y a des pièces exceptionnelles qui partent à 250 grammes 500 grammes, jusqu'à 1 kilo, et peuvent atteindre jusqu'à 100 000 euros, je crois que l'année dernière il a presque atteint les 100 000 euros, donc il n'y a que les Chinois qui peuvent se permettre ça, d'ailleurs ça fait Bomban, notre ami 3 étoiles italienne, il achète ça pratiquement tous les ans, parce que bon, après ils font des méga soirées.
C'est un peu placement,
mais,
quoi.
Ouais, et après là-bas ils ont ces visions de la plus belle, la plus grosse, comme nous les hommes nous avons souvent, et donc tu payes.
Voilà, tu payes. Tu payes le
tu
prix.
Tu payes, et voilà. Mais après, non, sans ça, c'est au fait, c'est les calibres aussi et la provenance qui fait la différence. Donc il faut faire attention quand on donne un prix. C'est quoi? Les 10 grammes, nous l'utilisons par exemple pour faire des beurres. Après, on commence à travailler à partir des 20 grammes. Et pour moi, pour la restauration, c'est 20. 50 grammes,
ouais,
c'est très
poids
bien.
Moyen
20,
à peu
20
près,
grammes
ouais.
par personne?
Non, 20 grammes par personne, c'est trop parce que c'est indigeste.
Trop, hein,
10 grammes, c'est très très bien.
10 grammes?
Voilà. 10 grammes, c'est bien par personne, c'est très très bien.
L'équivalent de, on va dire, 50 euros.
Voilà, 50 euros.
En prix d'achat. Hein.
En prix d'achat.
On est bien d'accord.
Donc si c'est 5004, comme actuellement le marché de la truffe Alba, très près de 5 quinti, c'est tu es déjà à 150 balles le plat sans faire le plat.
Ouais,
alors, Marine,
sans valeur ajoutée.
Sans valeur ajoutée.
Cette truffe blanche, pour ceux qui n'ont jamais goûté, parce qu'ils sont nombreux en France, hein, ce n'est quand même pas une spécialité chez nous, c'est un peu un produit exceptionnel, donc venu d'Italie, mais pas seulement, on va le voir.
Ouais.
Cette truffe blanche, comment est-ce qu'on la définit quand on en parle, ici en radio, sans l'avoir sous le nez, c'est quoi la différence avec la truffe noire?
Alors moi, j'ai toujours l'habitude de dire que ça n'a finalement, hormis le terme d'espèce, voilà, mais ça n'a strictement rien à voir avec la mélanosporum. On est sur une truffe qui est beaucoup plus tendre, qui n'a évidemment pas du tout le même aspect, qui a cet aspect un peu jaune-ocre. Voilà.
Oui, elle n'est pas blanche d'ailleurs. Hein.
Non, pas du tout.
Elle est ocre, beige foncé.
Exactement.
Elle peut être blanche de tilleul à l'intérieur.
Ah oui,
elle est très très blanche. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on définit la truffe blanche quand on voit le tilleul qui est très blanche, c'est tilleul. Quand on voit un rouge, elle est saule, qui d'ailleurs c'est la meilleure gustativement.
Ouais.
Mais
ah
elle
oui.
est peut-être rouge.
Quand vous dites
oui,
rouge,
elle est rouge. Les gens, d'ailleurs, tu ne le sais pas au départ, tu la coupes au client, on dirait que tu t'es coupé un doigt. C'est impressionnant.
La racine donne cette couleur.
La racine donne ça de sol,
D'accord. Et alors, cette truffe blanche, elle est... alors, pour ceux... Là encore, vous êtes nombreux à jamais avoir goûté. Peut-être vous avez senti une fois. Moi, je vais dire, je vais être trivial, mon cher Massimo, chère Marine.
Ouais.
Il y a un mélange de gaz, parce que ça sent un peu le butane, et l'ail aussi un peu. Hein, on peut dire ça?
Oui, on peut dire ça, mais c'est tellement un parfum tellement envoûtant. Nous, on a l'habitude de dire, et pour attirer les clients, vous savez, on en met quelques-unes dans la salle, et je peux vous dire que si vous connaissez ça, les gens, ils disent, mais c'est quoi ça?
Qu'est-ce qui se passe?
Vous n'avez pas besoin de mettre le nez dessus, un peu comme la mélanosporum, que j'adore, c'est autre chose, que j'adore aussi, mais là, elle vous rappelle, elle est féminine, la truffe blanche est féminine, le mélanosporum, c'est féminin, c'est masculin. C'est autre chose.
J'aime bien la distinction.
Ah, oui.
Marine Gallois, à qui achetez-vous? Qui sont les caveurs, ce qu'on appelle les caveurs,
des ramasseurs.
Nous,
je pense que c'est vraiment la différence. Enfin, je reviens toujours à la truffe noire, mais c'est un petit peu l'élément de comparaison. Vraiment, sur la truffe blanche, on parle de ramasseurs puisque c'est une truffe sauvage, donc on ne maîtrise pas du tout la production.
Il n'y a aucune truffière.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. L'INRA a essayé, je crois, dans les années 70, de mycorhiziser des arbres, etc.
Oui, c'est-à-dire d'avoir des racines ensemencées, en quelque sorte. Oui.
Qui n'a pas spécialement fonctionné. Donc vraiment, on est sur une truffe sauvage. Chaque ramasseur, d'ailleurs, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération dans les familles, et souvent c'est ils vont caver, chercher la truffe au moment de la tombée de la nuit, voire même en pleine nuit, parce que chacun connaît
pour pas montrer les coins aux autres.
Non, mais c'est pas pour ça simplement, là tout le monde dit, bien sûr ils disent c'est pour pas voir les lieux, mais les gens et des coins, ils savent que ça c'est ton coin, l'autre c'est un coin, c'est un peu comme ça, c'est tout simplement. Je l'ai fait beaucoup de fois de cavage, et c'est très fatigant. On va avec des chiens qui peuvent être des races différentes parce qu'ils sont dressés.
C'est le Lagotto.
Non, Lagotto. Bon, Lagotto, c'est l'historique. Mais moi, j'étais, par exemple, avec un berger allemand, une fois même avec d'autres chiens qui sont élevés pour ça. Donc là, dans l'émission, ça serait un peu long d'expliquer tout ça. Mais c'est fait parce que justement, la nuit, il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que vous n'avez pas.
Ils sont concentrés
concentrés sur leur nez. Ils ne voient pas. Il n'y a pas un avion, il n'y a pas une voiture, il n'y a rien qui tourne. Donc ils sont concentrés sur leur nez, et vous êtes derrière avec une toute petite comment dirais-je,
lampe,
mais tout, tout petit, sans le gêner, et lui, il va avec son nez, et hop, il s'arrête. Et selon comme il s'arrête, et selon comme il gratte, tu sais qu'elle est plus ou moins grosse, profonde, petite, grosse, profonde petite, ou pas. Ouais. Vous le savez, tout
d'ailleurs,
de suite.
Est-ce que, Marine, est-ce qu'on on cave à la même profondeur? Est-ce que c'est les mêmes biotopes que la truffe
noire? Alors, pas le même biotope. Sur, pour la truffe blanche, on est sur un milieu beaucoup plus humide, finalement.
Ouais,
elle pousse plutôt en bord de petits cours d'eau, contrairement à la truffe noire qui est sur des terrains plutôt secs.
Oui, calcaire, souvent.
Ouais, exactement, exactement. Mmh. Et voilà.
Oui, d'accord.
C'est pas pas. Oui, et puis après, il y a. Vous savez, quand vous allez sous les Langues, donc sous les collines, il y a tellement une diversité qui est énorme. Nous, ça nous est arrivé un peu comme les cèpes. Ça nous est arrivé de trouver des truffes blanches en bordure de la route, bizarrement, à côté d'un fossé, comme ça vous arrive.
Ou comme les morilles sur des tas de charbon.
Parce qu'elle est sauvage. Il faut savoir qu'aussi ses prix, il atteint ses prix parce que c'est sauvage. Aujourd'hui, on a une mauvaise saison parce que c'est sec. Elle n'a pas plu dans les bons moments. Donc les chiens, ben forcément, ils ne peuvent pas la sentir. C'est un peu comme quand on arrive vers l'hiver, plus en avant vers décembre. Parce que vous savez, vous avez de la très bonne truffe blanche, même en janvier. Si les températures et le sol, il est idéal. Même, je dirais, elle est la meilleure. Mais du moment que le chien puisse accéder.
Eh oui,
c'est-à-dire que
sûr.
Si tu as dessus un mètre de neige ou qu'il y a de la glace dessus, le chien, il ne peut pas. À un moment donné, il ne le sent plus. Et c'est ça qui fait la grande différence par rapport à la truffe noire, qui est une truffe qui est, en beaucoup de cas, je dirais, cultivée, tandis que là, c'est du sauvage.
Eh oui, 70% voilà. Maintenant,
c'est
80%,
c'est comme un bar sauvage et un bar de ligne.
Oh non, vous ne pouvez pas faire ligne, cette comparaison.
Nous ne la faisons pas, j'ai rien dit, excusez-moi tous.
Vous êtes chauvin, Massimo.
Ben oui,
d'ailleurs, Massimo, est-ce que même dans une époque un peu de pénurie comme celle-ci, est-ce qu'il y a assez de truffes blanches cette année, par exemple, pour servir tous ceux qui en veulent, tous les restaurateurs italiens qui vont l'utiliser ?
Ah, alors là, c'est une très très belle question que tu me poses, parce que je dirais, si on prend en compte les gens qui travaillent vraiment italien d'une manière, italien ou pas italien, parce que maintenant la truffe blanche de plus en plus rentre dans la cuisine française, comme beaucoup d'autres produits italiens, mais si on ferait vraiment un travail de la truffe fraîche, comme nous faisons, non. Non. Malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui utilisent des produits qui sont évolués par rapport à la truffe blanche. C'est-à-dire, ils utilisent des beurres,
des produits
utilisent
transformés,
des huiles transformées,
oui,
ils utilisent qui sont alors là, travaillés pour ça. Donc là, et d'ailleurs c'est un de nos problèmes, parce que souvent, ça nous arrive des fois des clients un peu ignares qui viennent dans les pays étrangers, qui sont habitués d'utiliser...
Qui ont ces références-là,
oui, gustatives. Oui, exactement. Moi, ça m'est arrivé à un client, je dis, mais monsieur... Mais votre truffe blanche, il n'y a pas de goût du tout. Et après, c'est difficile. Et alors moi, je dis, quand tu là-dedans, tu essaies de parler au client, des commandes, et tu vois que le gars, ben, c'est de l'huile de truffe qu'ils mettent dessus.
Aromatisé,
ça n'a rien à voir.
Marine, on va se quitter, mais je voudrais poser une question. Il y a quand même un moyen de remédier à cela, parce qu'aujourd'hui, toute la truffe blanche ne vient plus du Piémont.
Non. Depuis quelques années, la Croatie, la région d'Istrie principalement, est devenue une région très productrice. Alors l'espèce est la même, etc. On est quand même sur une truffe qui a moins de parfum que la truffe d'Alba. Massimo ne me confiera pas.
On a essayé tout à l'heure. Je l'ai trouvé tout de suite.
Il y a vraiment une différence de terroir, même si soi les conditions sont réunies. Mais c'est effectivement aujourd'hui un pays qui est concurrent de l'Italie pour la truffe blanche.
Restez avec nous, on va appeler des chefs bien français, mais qui aiment cette truffe bien italienne, en tout cas originellement. Et on va leur poser la question de savoir s'ils veulent de la truffe du Piémont ou si la truffe blanche leur suffit. À tout de suite.
Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Fergnaud, mes amis, fait le marché ce matin. Il était en train de renifler, figurez-vous. Voilà, en direct, voilà ce parfum envoûtant, comme le disait tout à l'heure Massimo Mori, restaurateur à Paris, et Marine Gallois qui m'a apporté, effectivement, de la truffe blanche. Alors, ça embaume dans le studio, hein, mes amis, bien entendu, et j'ai voulu poser la question de l'origine de ces truffes, parce que Marine nous disait juste avant la coupure que maintenant, le principal du marché se fait en Croatie, elle n'est plus uniquement, mais on va dire que pour la noire, c'est la même chose,
hein,
on achète la truffe espagnole,
voilà.
Ou même de la truffe noire italienne, hein, qui est très bonne du côté de Norcia, par exemple, hein, comme ça se fait depuis longtemps. Mais là, on parle de la truffe blanche, cette truffe blanche d'essence piémontaise. Et j'ai voulu appeler un grand chef triplement étoilé dans le sud de la France, du côté du Castellet. C'est Christophe Baquier. Bonjour, chef.
Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
Chef, je suis content de vous trouver un dimanche matin à 7h, parce que généralement vous êtes plutôt à vélo, hein, mais là vous aviez sûrement du boulot en cuisine, hein.
Dimanche matin, je suis aussi en cuisine, Vincent.
Eh oui.
Quand on est fermé, j'en profite pour faire du vélo, j'avoue.
Oui, c'est parce que c'est un athlète, et en cuisine, et sur son vélo. Alors, Christophe Baquier, je sais que pour l'avoir vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer une image de trois truffes absolument superbes. On sait maintenant le prix que ça coûte environ. On peut vous demander, grosso modo, autour de 5000, 6000, c'est ça, hein, c'est le prix auquel vous les avez touchés au kilo ?
J'en ai acheté la semaine dernière un peu plus de 6000, et là j'en ai acheté cette année un peu moins, cette semaine-là un peu moins de 6000 aussi.
D'accord, oui, ben en tout cas ça tourne autour. Et pourquoi est-ce qu'elle est chère ? Parce que vous avez une exigence, c'est pour ça que je voulais vous avoir en ligne. D'abord parce que vous avez un restaurant triplement étoilé, donc censément une clientèle de connaisseurs, de gens qui veulent que le meilleur, et vous voulez absolument de la truffe du Piémont, de la truffe d'Alba.
Oui, j'essaie de porter une exigence particulière, comme de toute façon sur la truffe, comme sur tous les produits. Il est vrai que là, on va parler de la truffe blanche, du Piémont, et si ça peut être d'Alba, c'est encore mieux. Moi, je trouve que son parfum est beaucoup plus prononcé. Elle est beaucoup plus odorante. Pour moi, elle me satisfait beaucoup mieux. Et c'est vrai d'avoir cette certification d'une truffe blanche d'Alba, comme j'essaie de l'avoir, est importante pour moi et ça me permet de le faire résonner auprès de ma clientèle également, parce que comme je l'entendais effectivement tout à l'heure, enfin ce que j'entendais des participants à votre émission également, il est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de truffes blanches, alors là qui sont viennent de d'autres pays et en particulier de certains pays de l'Est, et c'est vrai que même si c'est la même truffe, même si c'est vrai que le parfum est quand même un peu moins prononcé, mais après, il en faut pour tout le monde et ça se respecte.
Donc ça explique la différence de prix, hein, d'environ un millier d'euros, Marine, hein, c'est ce qu'on on peut dire, c'est 5000 pour la croate, et 6000 plutôt pour l'Italie, 6000-6005, hein, parce que ça peut aller selon le diamètre.
Donc après on comprend que certains restaurateurs ne puissent pas forcément s'offrir la vraie truffe d'Alba. Après,
ou offrir à leur clientèle, hein, c'est pas pour eux.
Oui, bien évidemment.
C'est reporter le prix en fait.
Après c'est une question de transparence, et je pense qu'il faut le dire, voilà, de l'Alba certifié ou de la croate, avec les différents tarifs et ce que le restaurateur fait en fonction de ses moyens et de ses possibilités.
Mais ça m'étonne un petit peu, Massimo, en un mot, parce que, par exemple, pour la truffe noire, pour cette mélano, là, cette truffe dite du Périgord, mais elle ne vient pas du Périgord en général, enfin pas seulement, en tout cas souvent du Sud-Est plutôt. Moi, je sais que j'ai goûté des truffes, par exemple, de Teruel en Espagne, des truffes noires, ou même en contre-saison de l'Australienne, qui est aussi bonne que ce qu'on trouverait dans le Tricastin.
Oui, c'est tout à fait, oui.
Et alors, la blanche, non, elle est beaucoup plus sensible à son terroir.
Ah ben oui, elle peut que ça. Ben, ça, c'est la nature. Ouais. Comment tu voulais dire?
Parce qu'elle est sauvage.
Qu'elle est sauvage. Donc c'est là que depuis tout le temps, on trouve la meilleure truffe. Il faut savoir que dans l'époque romaine, on trouvait de la truffe même en Grèce, en Albanie, en Roumanie, en Bulgarie.
Mais
on le savait.
Sur toute l'Adriatique, en fait.
Mais elle est moins de qualité. La bonne truffe blanche, c'est d'Alba.
Voilà.
Bon, c'est là, c'est tout. Le jambon de Parme, il est de Parme. Il coule à tel ou de Parme. Voilà. Après, si on veut avoir des choses qui sont bonnes, mais qui n'ont pas la même excellence de qualité, eh bien, on prend d'autres choses.
Christophe Baquier, dites-moi, chef, j'ai vu sur vos photos qu'elles sont baguées, vos truffes, comme des barres de ligne, par exemple, ou comme du gibier, elles ont des bagues pour les reconnaître ?
Eh bien, je pense que je suis tout à fait d'accord avec le monsieur qui vient de dire, à un moment donné...
Massimo,
il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir des truffes d'autres origines, même si ça reste de la truffe blanche. Ce qui me paraît important, c'est de pouvoir, quand on a la possibilité de pouvoir l'identifier de manière importante, là, en l'occurrence, elles sont baguées, on a un certificat d'origine, je l'ai pas montré sur ma page Instagram, c'est une possibilité, voilà, on a un certificat
d'origine. C'est la fiche de traçabilité de la truffe, en fait, en quelque
sorte. Exactement, et à partir de ce moment-là, ça me permet de dire aux clients qu'effectivement, on a la possibilité aujourd'hui de leur offrir et de leur faire déguster à travers un ou deux plats cette truffe blanche, effectivement d'Alba, mais comme il pourrait m'arriver d'avoir de la truffe blanche tout à fait normale, à ce moment-là, il suffit d'être suffisamment clair avec les gens. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'au niveau du parfum, au niveau, elle est meilleure. Maintenant, il faut être quand même extrêmement connaisseur.
Bien sûr.
Voilà, vous parliez de la truffe noire tout à l'heure, c'est pareil. Et puis on parlait de la truffe d'été, de la, la truffe noire l'été avec la truffe d'Australie, j'en travaille, c'est un produit magnifique.
Oui, oui, on est d'accord. Contre-saison, hein, simplement. Voilà.
Ben, en saison en Australie.
En saison en Australie, donc...
Ils ont fait la culture, hors saison chez nous, mais voilà.
Voilà. Merci Christophe. Avant de vous quitter, Christophe Baquier, de vous laisser retourner à vos fourneaux sur le piano, donnez-moi une ou deux de vos préparations où vous utilisez la truffe blanche en ce moment.
C'est une truffe qui se marie particulièrement bien. Alors, il est vrai, sur un risotto, sur des pâtes, c'est
tout le temps
le meilleur. Là, moi, je la marie avec la pomme de terre, avec une émulsion de pomme de terre. Des pommes de terre juste cuites en robe des champs qu'on va reprendre comme ça. Et on a fait un jus au chopépé. Ça marche super bien.
C'est un vin liquoreux, ouais.
Exactement. Okay. Et j'ai fait un jus échalote, une base de réduction de chopépé. On rajoute un petit jus de volaille et on vient verser ce jus de volaille-là. Un filet d'huile d'olive en salle et ça marche très bien.
Ah bah oui, voilà. Ça marche très bien, oui. Ça marche très bien pour vous.
C'est un produit d'excellence auquel il faut laisser sa plus grande expression. Et pour ça, il faut rester très sobre. Et je trouve que la pomme de terre ou le féculent marche très bien.
Oui. D'ailleurs, j'ajouterais les gnocchis di patate et les petits gnocchis de patate. Hein, c'est un peu le même système.
Oui, le fromager aussi, ça marche très bien. Ouais, les tartares de veau, ça marche super bien. Moi, j'utilise aussi un truc qui est super sympa. C'est pas que vous connaissez. Je me provisionne de œufs de poule nourris au lait qui ont tout à fait une autre texture, et ça, je vais vous dire, c'est avec la
toute mal.
C'est
pas mal avec les œufs, hein.
Très très beau.
Effectivement. Vincent... Merci Christophe Baquier. Attendez, je laisse Christophe Baquier retourner à sa cuisine. À très bientôt, et on viendra se faire râper un peu de truffe si on peut. Hein. Tout le monde n'a pas cette capacité, mais on aimerait bien. Allez, bonne journée à vous. Oui, Marine, excusez-moi,
je
vous ai coupé.
Je pense que c'est intéressant d'indiquer à nos auditeurs que la truffe blanche est une truffe qui ne se cuit pas, donc qui se râpe vraiment au dernier moment, un peu comme un condiment finalement.
Parce que si on la cuit, elle perd son arôme, en fait.
Contrairement à la noire.
Exactement, contrairement à la noire.
Mais c'est pour ça que quand les gens, ils disent la noire, elle est mieux que la blanche. Non, c'est deux choses différentes.
Ça n'a rien de comparable.
Allez, un autre coup de fil à un autre grand chef. On remonte depuis la France. Ici, on est à Paris. Et pourtant, lui, il est originaire de Marseille aussi. C'est aussi un homme du Sud.
Mais
c'est
son Jean-Louis. Épouse, elle est italienne, je crois.
Absolument. Jean-Louis Nomikos, bonjour. Jean-Louis.
Bonjour.
Alors, Jean-Louis Nomikos, lui aussi un très grand chef qui a été doublement étoilé. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que là, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas votre carrière, vous faites un retour vers le futur en reprenant les cuisines du restaurant La Serre où vous aviez été il y a 10 ans environ, 10-15 ans.
Oui, tout à fait. Ça fait déjà quelques temps. Alors, il y a eu la crise, effectivement, qui est passée par là, mais j'ai repris... Ça fait maintenant...
En 2018, c'est ça,
ouais,
c'est ça.
Non, en 2019.
19,
en
d'accord.
Mi-2019, ouais,
d'accord.
J'ai un concert. J'ai un restaurant dans le 16e qui s'appelle Nomikos, qui est plutôt une cuisine du Sud.
Oui, c'est ça.
Où j'utilise effectivement aussi la truffe d'été, la truffe...
Allô
La Mainac... Oui, où j'utilise la truffe blanche d'Alba, essentiellement d'Alba. Et chez La Serre, évidemment, où j'ai remis un plat aussi qui a qui est en fait un ravioli de pommes rates avec une émulsion de parmesan, et où effectivement on râpe la truffe devant les convives, sans la cuire évidemment, mais il faut qu'elle prenne aussi. Enfin, pour moi, je pense qu'il faut que la truffe blanche, pour qu'elle dégage le meilleur de ses arômes et de sa grande qualité gustative, c'est qu'il faut qu'elle prenne un tout petit peu la chaleur des plats, donc c'est important aussi ça.
C'est ça, donc sur un plat chaud, en fait, on la met au dernier moment et elle va s'affaisser un petit peu à la chaleur du plat qui se trouve dessous.
Ça. Voilà, c'est ça. Et moi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai rappelé la truffe devant les convives, ensuite, je prends une cloche et je laisse infuser pendant une demi-seconde.
Vous l'enfermez un petit peu, quoi.
Voilà, je l'enferme un petit peu pour qu'elle dégage tous ses arômes, parce que c'est quelque chose de très délicat, de très subtil.
Et comme on dit en restauration, vous déclochez devant le client, quoi.
La
première bouffée.
On décloche pour la dégustation et on a déjà toutes les odeurs de la truffe blanche d'Alba qui est...
On a un petit problème de réseau, hein, mon cher Jean-Louis. Parfois, il y a un petit mot qui saute, mais on comprend l'esprit. Marine, vous, c'est un de vos clients, Jean-Louis Nomikos.
Exactement, tout à fait.
Jean-Louis, juste avant de vous laisser aller cuisiner, parce que le dimanche matin, tout le monde est au boulot, dans la restauration, tant mieux d'ailleurs. Jean-Louis, il faut bien être clair, la truffe blanche, d'abord, c'est une saison qui est courte, ça s'adresse à des amateurs, ça n'aurait pas de sens d'aller payer le prix de la truffe si on la connaît connaît pas ou si on n'aime pas particulièrement, mais il y a beaucoup d'amateurs. En revanche, soyons clairs, ça double le prix du plat, peut-être même parfois plus.
Ah oui, ouais, ouais, oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est essentiel. Il faut pas tricher. Et je pense que si on utilise de la truffe blanche, il faut prendre de la truffe d'Alba. Enfin, c'est quand même un produit très cher. Et là-dessus, comme le disait Christophe Baquier, il faut pas hésiter à prendre des beaux produits. Mais là, maintenant, effectivement, elles sont baguées, donc ça donne une certaine assurance à notre à nos clients.
Oui, oui, bien sûr. Voilà. Allez, et on rentre pas à nouveau dans ce débat entre truffes véritables du Piémont d'Alba, qui est la capitale de la truffe blanche du Piémont, ou truffes croates, ou même d'ailleurs, hein, dans ce monde des Balkans où on peut trouver d'autres régions. On parlait de l'Albanie tout à l'heure avec Massimo. Merci Jean-Louis.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt. Cher Massimo, donc on a la main légère hein, quand même au moment... Service en salle, quand on voit partir le maître d'hôtel avec la râpe et la truffe, on lui dit hein, calmos, ouais, hein, calmos.
Il faut faire attention. Ben nous, en fait, on essaye, on connaît un petit peu la coupe et tout ça. On essaye de rester dans les plats annoncés. Moi, je ne vais pas au poids. Je dis, voilà, le plat coûte tant, stop. Après, on gagne, on perd. On la contrôle en revenant en cuisine. Souvent, on dit, oh putain, excusez-moi le terme.
Ben
t'as
oui, mis
2 grammes en plus. Qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es bête ou quoi? Enfin, ça dit au mot. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie aussi des restaurateurs.
Voilà. Marine Gallois, oui. On aura quand même assez de truffes pour nos grands restaurants?
Bien sûr.
On en trouvera toujours.
Oui,
on cherche. Hein. Le tout, c'est de la payer au prix.
Exactement.
Et parfois, quand le marché est un peu serré, évidemment, les prix montent. Moi, je vous souhaite une chose, simplement, de la goûter au moins une fois dans votre vie, hein, pour avoir emmagasiné.
Ouais.
Oui,
ouais.
C'est une expérience.
Ouais.
Et si, comme le disait Massimo, avec même 5 grammes au dernier moment sur une viande blanche, un lapin. Moi, j'aime bien sur le lapin, par exemple.
C'est bien.
Je trouve que ça fonctionne
super bien.
Viande blanche, formidable.
Ouais.
Voilà. Donc, je vous le souhaite. Je vous le souhaite à tous. Merci d'être venu me voir ce matin.
Merci à toi.
Ça m'a donné grand faim. Et ça a embaumé dans le studio. On se retrouve dans 2 minutes. On reste dans les truffes. Mais là, ça va être des truffes en chocolat.
Ah, forza.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fernio fait le marché.
Mes amis, après une demi-heure d'émission passée au chevet de la truffe blanche, la truffe de saison, truffe du Piémont ou d'ailleurs, eh bien on va s'occuper encore de truffes, parce qu'il y a une autre truffe de saison et celle-là, c'est la truffe en chocolat. Évidemment, puisque cette semaine se tient encore aujourd'hui et demain, le fameux salon du chocolat à Paris. C'est un grand retour après la période d'interdiction sanitaire, on peut dire globalement, hein, de se réunir. Et il y avait de nombreux chocolatiers présents sur le salon, ils y sont encore aujourd'hui et demain. Vous avez le temps d'aller les voir, et notamment une forte délégation rhône-alpine. Il faut dire que les rhône-alpins, ils sont forts en chocolat.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Alors je suis avec Stéphane Bonnat sur un magnifique stand comme chaque année. Un salon du chocolat, pour vous c'est le passage obligatoire, pourtant cette année beaucoup se sont posé la question, il y a pas mal d'absents.
Oui, mais c'est un petit peu normal puisque on a en fait des clients qui ont redécouvert qu'on existait en tant que produit français. Et on n'a pas eu affaire à nos clients japonais, américains, sud-américains ou autres. Par contre, nos concitoyens ont soudain recouvré la mémoire et sont venus nous voir. Donc j'imagine que mes confrères qui ne travaillent pas à l'étranger n'ont pas ressenti l'urgence d'être présent sur salon.
À l'instant même, j'étais avec Mercotte, qui faisait la promotion de votre maison, en disant, pour moi, il y a des chocolats de dégustation. Ils sont gourmands, ils sont gras, ils viennent petit à petit. C'est une de vos plus fidèles clientes.
Oui, puis elle est adorable, puis elle sait de quoi elle parle. Mais n'oublions pas ce que disait Caradoc, le gras c'est la vie, hein, donc qui en est dans le chocolat c'est une bonne chose.
Oui, mais alors, il y a des chocolats qui sont un peu secs, justement, hein, dans la concurrence. Vous faites toujours attention à ce que cette onctuosité, ce gras soit toujours très présent comme un écrin aux saveurs.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est comme nous n'utilisons pas d'émulsifiants, comme par exemple de la lécithine, nous sommes obligés de respecter le taux de beurre de cacao qui est présent dans la fève. Du coup, effectivement, on a une impression de gras, qu'on pourrait appeler comme ça. C'est une fausse impression de gras, parce que le beurre de cacao est quand même la graisse parfaite, ne l'oublions pas. Et puis, c'est un vecteur d'arôme qui est très important. Et quant à la texture, c'est lié au fait que nous continuions d'utiliser des machines qui ont été imaginées aux alentours de 1870 et qui, à l'époque, nécessitaient énormément de temps pour atteindre une granulométrie de l'ordre de 18 à 20 microns, donc de 18 à 20 millièmes de millimètre. Et ça apporte cette structure qui est très particulière.
Ah, puisque vous parlez de vos conches, hein, c'est comme ça qu'on appelle les barattes à chocolat, vos conches, c'est un objet qui sert à quoi en fait? Quand on dit affiner le chocolat, le concher, c'est quoi l'idée?
Alors en fait, on change la structure moléculaire du cacao. Le cacao est un produit qui est très acide et très astringent. Alors l'acidité, tout le monde connaît, c'est facile à comprendre. L'astringence, c'est cet effet buvard que l'on ressent au palais lorsque...
Il sèche les muqueuses.
Exactement. Alors c'est une réaction naturelle du corps humain. En fait, le cerveau, par l'entremise du palais, détecte une palette aromatique un petit peu originale. Et dans le loup-tapsien-toi, donc le cerveau ordonne au palais de s'assécher. Pour éviter...
Normalement la déglutition, quoi, c'est comme un rejet.
Voilà, on évite de déglutir pour éviter d'avaler un produit qui pourrait être du poison. Ouais. Mais alors, à ce compte-là, le saucisson, le vin, le chocolat et certains légumes seraient poison, ce qui n'est pas vrai.
Non, c'est juste que c'est goûteux, c'est très aromatique.
Exactement, alors oui, puis en général c'est sur des bons produits, donc ça se demandait si on n'aurait pas uniquement un cerveau anglais qui refuse la bonne nourriture. Mais ça, c'est un autre débat.
Stéphane Monin, vous qui êtes né dans le chocolat, hein, puisque déjà en boutique, sur les fonds baptismaux du chocolat, baptisé au cacao, qu'est-ce qui vous fait encore envie? Qu'est-ce qui vous fait encore bouger dans ce monde des chocolatiers?
Ah, tout. Alors nous, on a la chance de travailler directement dans les plantations. On a même nos propres plantations. Et en fait, on découvre énormément de produits nouveaux qui poussent, par exemple, dans la forêt primaire qui est peu visitée et qui s'associent merveilleusement au cacao. Ça explique aussi certains arômes que l'on trouve dans le cacao. Et puis, il y a des choses magnifiques. On va parfois dans des restaurants en France ou à l'étranger, on découvre des nouvelles saveurs qu'on aimerait bien pouvoir transposer dans le chocolat. Des fois, c'est possible, des fois, ça ne l'est pas. Et puis, c'est surtout de rencontrer des gens, aussi bien fournisseurs que clients, qui ont chacun une histoire à nous raconter, qui est très fortement liée au chocolat en général, mais à la Maison Bonnat en particulier. Parce qu'on est quand même là depuis bientôt deux siècles, de père en fils, et ça amène une boîte à histoire assez, assez invraisemblable.
Lorsqu'on regarde vos dernières créations, ce qui est présenté ici au Salon du Chocolat, on se dit mais il n'y aurait pas une sorte d'histoire d'amour avec le Mexique en ce moment?
Ah si, d'abord parce que ma femme est mexicaine, donc il y a 6 ans c'était avec le Pérou. On a essayé d'explorer le territoire et en fait il y a tellement de choses à faire. On a arrêté parce que sinon on aurait passé notre vie au Pérou. La cuisine est merveilleuse, les gens sont extraordinairement sympathiques. Pareil avec le Brésil. Alors le Brésil qui lui, à contrario, est amoureux de la France. Et là, le Mexique, tout simplement parce que deux de nos plantations sont là-bas. Et finalement, on découvre des choses qui étaient sous notre nez et qu'on n'avait pas vues. Parce qu'on était focalisé sur la ligne bleue des Vosges et pas du tout, il fallait regarder devant les pieds.
Stéphane Bonin, de la même façon que l'Éthiopie est le berceau du café, le Mexique, c'est le berceau du chocolat. Donc c'est un peu un retour aux origines.
Oui, alors le Mexique, c'est le berceau du cacao. Le berceau du chocolat, c'est l'Europe. Il ne faut pas oublier que le chocolat tel qu'on le consomme à l'heure actuelle est une invention européenne.
Et la boisson aztèque, ça s'appelait pas le chocolatl?
Ouais, ça avait plusieurs noms. Et puis, une fois qu'on l'a goûté, on est bien content de retrouver du chocolat français parce que c'est un truc qui fait exploser le palais. Parce que
bourré de piment.
Il y a beaucoup de piment, il y a du maïs, il y a des herbes un peu rigolotes. Donc, et le tout avec un cacao qui est relativement puissant puisqu'il n'est pas fermenté. Il est éventuellement lavé, séché, donc ça donne des choses qui sont plus proches du détachant à peinture que du chocolat.
Donc il fallait que l'Europe passe par le Mexique avec les conquistadors pour transformer ce produit, cette matière première géniale, dans la finesse de goût et la diversité que l'on trouve aujourd'hui sur le marché européen.
Exactement. En fait, le cacao est vraiment l'aliment qui lie les personnes entre elles et les continents entre eux, puisque sans l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale, les Européens ne connaîtraient pas le chocolat, mais sans les Européens, les Sud-Américains et le reste de la planète ne connaîtraient pas le chocolat non plus. Donc sans cet ajout de compétences et d'amour partagé, le chocolat n'existerait pas. Donc c'est la parfaite illustration d'un monde où tout va bien et où on se fait plaisir sans dire trop de gros mots.
Oh ben non, les gros mots, c'est pas notre genre ici à Sud Radio. Et j'en connais une qui n'aime pas non plus les mots grossiers.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Et je retrouve qui avec un panier plein de tablettes? Évidemment, Mercotte, c'est pour aller faire des gâteaux au chocolat.
Ah non, c'est juste pour les déguster. Parce que ces tablettes-là, c'est pas bien de s'en servir pour des gâteaux, c'est des tablettes qu'on savoure, qu'on déguste tous les soirs avant de me coucher. J'en prends un bâton.
Mercotte voulait dire que, en fait, dans les gâteaux, on met des chocolats de moins bonne facture que les chocolats à déguster.
Ça va pas la tête? Non. Dans les gâteaux, on met des chocolats de couverture. Mais là, les tablettes Bona, moi je connais Bona depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Je connais les autres générations de Bona. Eh bien, c'est un chocolat qui a... Alors, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est un chocolat qui est grand en bouche, long en bouche, et c'est ce que j'aime. Il y a des chocolats qui sont plus secs, où il y a moins de gourmandise. Ce sont des tablettes très gourmandes. Ce sont mes tablettes préférées, je l'avoue.
Alors... C'est formidable parce que Voiron, c'est pas loin de Grenoble, et là c'est une chambérienne hein, qui vous dit ça, donc il n'y a pas de régionalisme dans le chocolat.
Non, mais moi je vais aller chercher à Voiron mes chocolats. J'en achète une grande partie ici au Salon du Chocolat, ça me fait 6 mois, et puis après je vais à Voiron retrouver mes copains, Flavie, Stéphane et Nicole, et voilà.
D'ailleurs, la boutique, elle est toujours la même à Voiron. Et ça, on adore ça. Quand on va à Voiron, qui est aussi la capitale de la Chartreuse, hein, puisque le monastère de la Chartreuse...
Et de l'anthésite.
Et de l'anthésite, hein, cette boisson à la réglisse hein, qui a fait la joie de nos enfances. On retrouve un peu cette âme de la maison Bona qui ne bouge pas. C'est comme un jalon dans le temps.
Absolument. C'est toujours la même façade verte, toujours très traditionnelle. Mais elle est immense, cette façade. C'est... Voilà, on se sent bien, quoi.
Est-ce que vous avez goûté les nouveaux crus du Mexique?
Oui, je les ai même goûtés en avant-première à Tokissim, parce que Stéphane, il m'en a donné. J'ai goûté le chocolat au lait à 65%, qui est surprenant au début, qui est tout en rondeur et qui est... Oui, surprenant pour un chocolat au lait, on a du mal à l'imaginer, qui est excellent, et le noir qui est à tomber.
Tokissim, on le rappelle, c'est ce festival de la cuisine de montagne à Megève.
Eh oui, à Megève, on passe 4 jours de folie, il faut y venir, hein. C'est exceptionnel, ça recommence l'année prochaine.
D'ailleurs, j'ai vu un championnat du pâté-croûte qui faisait un peu la concurrence aux Lyonnais.
Alors, en fait, c'est le championnat du pâté-croûte de montagne, et celui qui gagne, il va être se qualifier pour l'année prochaine. Nous, le Lyonnais, la finale du championnat du monde, c'est le 29 novembre, et j'y serai.
Et moi aussi, Mercotte, et j'espère qu'on aura la fourchette vive et le couteau tranchant.
Forcément, et on veut une bonne gelée et une bonne pâte.
D'ici là, bon chocolat.
Merci.
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Voilà, toujours un plaisir de croiser Mercotte sur les salons ou sur les événements ou même dans les émissions de télé. On se retrouve dans une minute pour continuer à baigner dans le chocolat.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Retour sur cet événement majeur pour les gourmands, puisqu'on y parle de chocolat. C'est le salon du chocolat qui se partage entre le monde des producteurs, celui de l'industrie chocolatière et surtout beaucoup d'artisans qui viennent vendre sur le salon du chocolat et vous faire goûter leurs créations. Il y en avait un qui était là, Monté de Lyon, à la fois chocolatier et pâtissier. Vous connaissez forcément son nom.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Alors je suis avec Philippe Bernachon, chocolatier lyonnais. Philippe, vous n'avez pas de stand et pourtant, vous ne manquez pas de venir ici à l'inauguration du Salon du Chocolat. Pourquoi ? Pour les copains ?
Alors oui, pour les copains, et puis ça nous permet de voir un peu ce qui se passe dans la profession, de voir un peu tout le monde, et c'est quand même le rendez-vous du chocolat en cette fin d'année, donc c'est important d'être là.
Le Salon du Chocolat, c'est une histoire ancienne, vous y venez chaque année ?
Oui, et puis on a quand même de grosses affinités avec l'organisateur, qui, chaque année on part au Japon avec lui, donc c'est important. Et puis là, c'est quand même le salon post-Covid, donc ça reste pour relancer la machine, c'est important d'être là et de soutenir toute cette profession.
Pour vos copains chocolatiers qui sont là, François Pralu, chez qui on est là, Stéphane Bonnat, toute cette région Rhône-Alpes bien représentée, c'est le moyen de venir aussi faire des affaires à Paris. Mais vous n'avez pas besoin de ça, puisque vous avez une boutique maintenant.
Oui, mais regardez, François Pralu, il a aussi une boutique, plusieurs boutiques à Paris. Stéphane Bonnat, il a aussi sa boutique à Paris. Voilà, Bernachon, on a une boutique. Donc on aime bien venir à Paris voir ce qui se passe et dire bonjour aux Parisiens et aux étrangers quand ils sont là.
Alors j'ai vu il n'y a pas longtemps un beau reportage à la télévision où vous dégustiez chez votre nounou de quand vous étiez petit un gâteau au chocolat absolument extraordinaire dont elle avouait d'ailleurs dans le reportage qu'elle mettait plus de beurre qu'à l'époque. C'est vous qui avez poussé un peu sur le coude pour qu'elle mette plus de beurre ?
Non, mais le beurre à Lyon c'est religion, hein, donc on en met toujours un peu trop peut-être, mais on aime ça. Hein. Mais c'est oui, c'est des gâteaux d'enfance qu'on a ce goût dans la tête et dans le palais, et à chaque fois qu'elle le refait, on le déguste avec plaisir.
Paléor, qui pour moi est l'emblème de la maison Bernachon, depuis que j'ai eu la chance de goûter la première fois. Et j'ai un tout petit regret, évidemment, un nouveau pâtissier au restaurant Paul Bocuse, dans le restaurant qui a été celui de votre grand-père. Évidemment, le président, qui est là aussi emblématique de la maison Bernachon, est sorti du chariot de dessert. On vous en parle à Lyon ?
Alors, le président est sorti effectivement du chariot de dessert, donc on n'en a jamais autant vendu. Alors, est-ce que c'est à cause de ça ? Je sais pas. Mais en tout cas, les Palais d'Or, eux, sont toujours présents et ça fait aussi quand même voilà, ce petit clin d'œil familial qui fait que c'est important que les chocolats Bernachon soient présents là-bas.
Ouais. Et même si on les trouve plus à la table de Paul Bocuse, en tout cas, on les trouve chez vous. Et quand vous dites on n'en a jamais autant vendu, pouvez nous rappeler ce qu'il y a à l'intérieur du président ?
Alors, c'est un gâteau avec de la génoise, une ganache qui est faite avec du praliné à noisette et des bigarreaux blancs qui sont confits. Donc ça, c'est tout fait maison, bien sûr. Et on imbibe ça avec un petit alcool qu'on fait faire dans les Monts du Lyonnais. D'ailleurs, c'est le même alcool que M. Pralu fait avec son élixir du Père François. C'est la même maison, c'est la maison Crozet. Et c'est des deux artistes qui nous font vraiment ce qu'on veut comme alcool. Donc voilà, ça reste voilà, très régional et très lyonnais.
Et pour ceux qui n'ont jamais goûté ce gâteau, qui n'ont jamais eu la chance donc, de le goûter ou même d'aller chez Paul Bocuse, au restaurant Paul Bocuse, on le trouve chez vous. C'est un peu, on pourrait dire, une sorte d'interprétation lyonnaise, une sorte de forêt noire lyonnaise, une forêt lyonnaise, quoi.
Oui, on peut dire ça, avec ces copeaux de chocolat dessus qu'on compare souvent à une tête de moine, mais ça reste quand même du chocolat, du bon chocolat noir. Mais oui, c'est l'emblème de la maison.
Et on le trouve à Paris maintenant alors ?
Non.
Non, que du chocolat à Paris ?
Ouais, que du chocolat à Paris. On fait un autre gâteau à Paris qu'on appelle l'éventail, ouais. Qui est tout bête. C'est une pâte à succès avec de la ganache. Donc ça, on en a de temps en temps. Et puis on fait des petits week-ends présidents comme ça pour quand ça
des
nous chante.
Des week-ends présidentiels. Ah ben ça, c'est une formule ça.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Ah oui, ce week-end présidentiel, bah j'en connais un justement, un chocolatier, toujours dans la même région, qui en a bénéficié il y a très peu de temps.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Alors je suis avec François Pralu, le chocolatier de Rouen, qui vient d'ailleurs d'être décoré par le président de la République de l'Ordre du Mérite. Vous êtes méritant ?
Bah, il paraît, c'est ce que tout le monde me dit. En tout cas, le président m'a dit que je le méritais. Donc,
on peut lui faire confiance.
On peut, j'imagine. Bah, donc, en tout cas, j'étais très honoré que ce soit le président qui me remette cet insigne du mérite national.
Et puis, alors, c'est chouette parce que le mérite, c'est une médaille qui est bleue, comme la fourme de Montbrison. Et c'est un fromage bleu, et donc ville bleue. Et vous avez une boutique à Montbrison. Montbrison qui est assez méconnu en dehors de la région. Et pourtant, c'est un des plus beaux marchés de France.
Alors, il a été classé effectivement le plus beau marché de France. La fourme de Montbrison, ben, tout le monde connaît, avec la fourme quand même d'Ambert, mais Montbrison aussi. Effectivement, c'est bien vu. Hein. Il y a le bleu de l'insigne et le bleu de Montbrison.
Et le bleu de vos yeux, François, aussi, hein, parce que ça va bien avec vos yeux.
Oui, mais ça se voit pas à la radio, mais il paraît qu'ils sont bleus aussi.
François Pralu, on est content de vous voir. Il y a une forte délégation de chocolatiers rhône-alpins ici. C'est absolument extraordinaire. J'ai parlé avec Philippe Bernachon de Lyon, avec Stéphane Bonin de Voiron. Pourquoi est-ce que la région Rhône-Alpes est si fort en chocolat ?
Ben, parce que je sais pas, mais apparemment, les premiers grands chocolatiers, ben, comme Bernachon, la maison Valrhona qui s'est installée à Tain-l'Hermitage.
C'est comme un foyer autour du Rhône, quoi.
Exactement. Donc, je sais pas pourquoi le Rhône-Alpes est tant chargé en chocolatiers de qualité. Mais effectivement, il y a la maison Bonnat, la maison Bernachon, Weiss qui est à Saint-Étienne. Nous-mêmes, et c'est vrai que c'est très concentré en fabriquant de chocolat dans le Rhône-Alpes.
Et puis il y a une sorte de solidarité, hein, parce que c'est tous des copains ici au Salon du Chocolat. Personne ne se tire dans les pattes. C'est vraiment une sorte d'entente entre ces maisons chocolatières.
Ah, c'est même une confrérie, hein, que ce soit avec Stéphane Bonnat, Philippe Bernachon, moi-même et plein d'autres. On est très très copains, on se réunit tous les ans. D'ailleurs, l'année dernière, je devais emmener 20 chocolatiers du Rhône-Alpes, mais aussi de toute la France, à Madagascar, dans ma plantation. On devait partir 20 personnes. On a été bloqué par le Covid, mais c'est reporté l'année prochaine. Donc les 20 copains vont partir l'année prochaine à Madagascar.
Vous êtes un chocolatier voyageur. Un peu comme Stéphane Bonnat, hein, ce besoin d'aller dans les plantations, dans vos plantations. Vous avez dû être extrêmement malheureux d'être confiné pendant tout ce temps. Vous avez encore les semelles qui doivent vous brûler.
Alors, les semelles nous brûlent, surtout que j'y vais à peu près 2 ou 3 fois par an à Madagascar. Et là, ça va faire presque 2 ans et demi que je n'ai pas mis les pieds dans ma plantation. Alors fatalement, ben, les responsables, les employés, tout le monde m'attend. Et moi aussi, je suis très impatient de trouver le premier vol pour repartir à Madagascar. Bon, paraît-il, ça va arriver dans peut-être le mois de novembre.
Ah, merci François Pralu. Revenez de Madagascar, hein, il y aura encore besoin de vous ici.
Oui. Oui, mais il faudrait déjà que je puisse y aller.
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché.
Eh bien, on lui souhaite à lui et à tous ses confrères chocolatiers de pouvoir reprendre les pistes, les vols vers les destinations où ils pourront aller surveiller les cacaoyers qui leur donneront les plus belles fèves pour les chocolats qui nous régaleront et qui vous régaleront toute l'année. Voilà, mes amis, on va pouvoir goûter toutes ces merveilles pendant cette semaine. Je vous le répète, vous avez encore le temps d'aller au Salon du Chocolat jusqu'à demain soir, hein, si vous passez par la capitale. Nous, on va se contenter de ce qu'on trouvera dans le studio. Il reste encore quelque chose à grignoter. Allez, on se retrouve après le journal avec Alexandre Devecchio et son émission politique, bien sûr. Et puis, tout de suite après, ce sera Nathalie Schrengerma et son Made in France. Vous passez une belle semaine, une belle journée déjà à l'écoute de Sud Radio, une belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour faire le marché.
Sud Radio, Ferniaud fait le marché.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.